Place publique. François Comte.
Bonsoir. Un député libéral radical au Grand Conseil neuchâtelois remet sur la table la question de l'imposition des frontaliers. Andréa Siourt a déposé récemment une motion sur le sujet. Le texte demande de doubler le taux de rétrocession de la masse salariale brute versée par la France à 8 cantons, dont Neuchâtel, Berne et le Jura. Cette somme est donc versée pour chaque travailleur. Le gain se montrait à 16,5 millions de francs pour les caisses de l'État et des communes dans le canton de Neuchâtel. L'élu PLR demande au Conseil d'État neuchâtelois de mandater la Confédération pour renégocier l'accord passé en 1983. Andréa Siourt nous parle de sa démarche dans une interview réalisée ce matin dans les conditions du direct. Il nous explique tout d'abord pourquoi il a décidé de demander une hausse du taux de rétrocession.
Cette idée de revoir la rétrocession que la France donne à 8 cantons, dont Neuchâtel et Jura, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, le Conseil d'État neuchâtelois a répondu à des motions parlementaires, aussi bien de l'UDC que du PLR, à ce sujet. Et le Conseil d'État a répondu, si je ne me trompe pas, en 2016. Mais maintenant, comme vous avez certainement entendu, la France ou la communauté européenne demande plus d'équité, tout particulièrement en matière de chômage, pour les frontaliers. Pour les frontaliers qui ont travaillé plus d'une année en Suisse, c'est plus à la Suisse de payer. Et là, on parle de horizon 2021, mais à la Suisse, parce que les frontaliers payent leurs cotisations sociales en Suisse. Cette demande d'équité, je peux parfaitement comprendre, mais c'était droit le moment de aussi une fois de revoir est-ce que ce taux de rétrocession de 4,5% est toujours approprié, si on tient compte quand même du différentiel du pouvoir d'achat à peut-être à 10 km de l'autre côté de la frontière. Et c'était ça, si vous voulez, pourquoi j'ai lancé cette motion.
Alors justement, cette question de taux de chômage, c'est encore de la musique d'avenir, mais la Suisse pourrait avoir à payer finalement les indemnités chômage des travailleurs frontaliers, alors qu'aujourd'hui c'est la France qui paye ce montant. Vous vous demandez donc en termes de compensation une hausse de ce taux de rétrocession versé par la France finalement pour chaque travailleur frontalier. Vous souhaitez que ce taux passe de 4,5 à 9%. Comment vous êtes arrivé à ce chiffre de 9%?
Alors du fait que, encore une fois, au risque et péril de me répéter, il y a déjà eu des interventions parlementaires, non seulement dans le canton de Neuchâtel, mais de part à l'autre, en Suisse romande, tous les cantons qui sont limitrophes. Mais il n'y a jamais eu une réflexion, une méthodologie, oui, toute hypothèse de travail est critiquable, mais qui tient la route intellectuellement et économiquement. Et moi, je suis parti de la logique du pouvoir d'achat de différentiel. Si vous prenez le Locle et Morteau, hein, c'est à 10 minutes de voiture, il y a quand même un différentiel. Si aujourd'hui, l'ouvrier en Suisse peut tout juste payer un appartement, et sans être populiste ni xénophobe, on voit quand même aussi les remarques des internautes. On voit un frontalier, au bout de 5 ans, ils peuvent se construire une belle villa. Alors, il y a effectivement une différence du pouvoir d'achat. Et je voulais simplement que le différentiel du salaire brut en Suisse soit calibré sur le pouvoir d'achat suisse.
Votre proposition, vous le dites en filigrane, arrive alors que les discussions entre la Suisse et l'Union européenne sur un accord cadre sont dans l'impasse. Est-ce que c'est vraiment le moment de remettre sur la table cette question de l'imposition des frontaliers et de taper du poing sur la table en quelque sorte?
C'est pas taper sur la table, mais c'est simplement demander le juste prix. Ça veut dire à ce qu'on a droit, avec les argumentaires que j'ai développés. Et ni plus ni moins. Et puis la Suisse, comme Mme Le Tartre, je crois, semble-t-il, l'avait dit dans son testament, quand elle a pris, annoncé sa démission, et un des points était que la Suisse, ma foi, est vue du côté européen un peu moins bien vue qu'il y a une vingtaine d'années. Et puis maintenant, je dirais, à un moment donné, il faut pas jouer en foot 4-4-1-1, une tactique totalement défensive, parce qu'on n'y gagne rien, on joue col contre. Et là, je pense que la Suisse a tout à fait droit, ou la Confédération, de renégocier sur des faits factuels et des arguments pertinents que je crois j'ai essayé de développer avec mes collègues députés du PLR. Vous voyez, je vous donnerai peut-être une autre image. La Suisse me fait parfois penser au gamin qui se fait gifler à la cour de récréation puis dit encore merci, mais quand même, mes enfants, à un moment donné, on a quand même des arguments à faire valoir.
Cette question, finalement, de la position des travailleurs frontaliers, c'est plutôt une thématique qui est mise en avant par l'UDC, pas par le PLR. Est-ce que vous, votre parti, vous cherchez en quelque sorte à courir un peu derrière l'UDC à un an des élections fédérales?
Comme je l'ai bien dit, c'est non stigmatisant et non xénophobe parce que, personnellement, et c'est aussi l'ADN du PLR, on est plutôt une approche inclusive. Il faut offrir la perspective et une chance à tout le monde. Et ce n'est pas du tout exclusif. Peut-être la différence par rapport au UDC, c'est eux, ils ont plutôt la tendance à lancer des sujets. Puis le PLR va plus dans le détail, il pèse le pour les comptes avant de tirer le pénalty, vous voyez.
Dans votre motion, vous vous défendez de toute xénophobie, de tout sentiment finalement stigmatisant, mais est-ce que cette démarche, votre démarche, elle n'est pas tout de même un peu populiste? On sait qu'électoralement, ça peut faire recette de taper entre guillemets sur les frontaliers.
Non, regardez, qu'est-ce que dit le Conseil d'État? Ou quel est quelque peu le problème de l'arc jurassien? Parce que je ne pense pas seulement Neuchâtel, mais aussi Jura. On n'arrive pas à capter les richesses. Si vous regardez le savoir-faire qu'on a ici, ce qu'on exporte, mais en somme, capter les richesses, c'est très faible. Prenez un exemple, le commerce local, magasin ou restaurant. Imaginez si ces 12 000 frontaliers mangent 3 fois par semaine et ils dépensent 20 francs pour le menu. Mais ça fait plus que 4 millions de chiffres d'affaires qu'on peut capter ici. Ça fait des impôts, ça fait des emplois. Je veux dire, c'est du concret maintenant. Il faut qu'on rapatrie un peu l'argent qui est créé ici et maintenant.
Donc votre idée, c'est aussi peut-être de favoriser l'installation de ces travailleurs frontaliers dans nos régions en tant qu'habitants.
Juste, regardez, c'est pour ça que quand j'ai fait le comparatif des impôts, faut faire attention quand on fait une proposition, pas que ça soit discriminatoire ou contraire aux conventions de double imposition. Mais comme la motion elle est calibrée, ça pourrait inciter un frontalier de dire, écoute, finalement, ça vaudrait peut-être la peine de venir m'installer en Suisse. C'est une concurrence tout à fait loyale.
Alors on sait que la région, elle a besoin de ces travailleurs frontaliers pour occuper des places de travail nécessaires à l'industrie. Est-ce que votre proposition ne met pas en péril l'activité économique de la région en définitive?
C'est une très bonne question. Et avant de vraiment publier la motion, j'ai quand même fait un sondage auprès quelques, pas trop de PME, qui ont besoin de cette main-d'œuvre frontalière. Et puis je retiens surtout une remarque d'un grand patron qui m'a dit... Nous aussi, les patrons suisses, on doit être davantage sensibilisés si on cherche, par exemple, un automaticien qui était formé dans la région, qui a toutes les compétences. Et si on met en balance un frontalier, qui en plus peut être une formation de technicien ou d'ingénieur, qu'on dit, qu'est-ce qu'on cherche? Un automaticien et pas un ingénieur.
C'est-à-dire que c'est à l'industrie d'engager finalement peut-être davantage de Suisses que de frontaliers, c'est ça?
Moi, je pense, vous savez, en 2005, il y avait cette loi et la préférence nationale. Et encore une fois, il ne faut pas qu'elle soit stigmatisante, mais maintenant, on travaille avec les ORP. Je crois qu'il y a, surtout dans le cadre de Neuchâtel avec le New Deal, il y a une volonté, une sensibilisation qu'on s'occupe d'abord des nôtres avant des autres. C'est ce qu'on fait aussi en tant que père de famille.
Alors vous souhaitez, dans votre motion, que le Conseil d'État neuchâtelois mandate la Confédération pour renégocier cet accord sur la rétrocession avec ou sans les 7 autres cantons. Est-ce que ça risque pas de provoquer finalement une perte d'attractivité pour le canton de Neuchâtel si les autres cantons refusaient de suivre cette voie?
Non, parce que je vous dis, c'est une demande. Je préférerais personnellement que j'ai un Pascal Broulis ou un Charles Chouirard ou le ministre Gerber avec nous, que me lancer tout seul. Il vaut mieux être 10 joueurs sur le terrain que 2. Hein.
Mais ça pourrait provoquer une perte d'attractivité pour le canton de Neuchâtel si vous étiez seul?
Non, du tout. C'est plutôt, je dirais, on montre que... disons, la période où elle était passif, elle est révolue.
Et c'était donc Andreas Hurt, député PLR au Grand Conseil neuchâtelois.
Place publique.